Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat après la réélection d'Ali Bongo au Gabon. Vous savez que la Cour constitutionnelle a confirmé sa victoire en rejetant l'essentiel des recours de l'opposant Jean Ping. C'est un déni de justice, a dénoncé le candidat malheureux qu'on a pu entendre sur notre antenne. Jean Ping qui s'oppose toujours en président élu. Il a donc invité le peuple à rester mobilisé en se gardant bien évidemment de donner des consignes. En tout cas, dès l'annonce de sa réélection, Ali Bongo a appelé au dialogue politique. Lui aussi s'est exprimé sur notre antenne. Il a d'ailleurs laissé entendre que le nouveau gouvernement pourrait très probablement inclure des personnalités de l'opposition. Alors Jean Ping doit-il accepter cette main tendue? Comment mettre fin finalement à la crise politique au Gabon? Vous nous appelez, nous vous donnerons la parole. 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à réagir sur les réseaux sociaux. Plusieurs centaines de messages postés ce week-end pour réagir à la réélection d'Ali Bongo au Gabon. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vous le savez, à cette heure-ci, comme tous les matins, c'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes des RFI. Vous nous posez vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Pierre Firsion du service France, du service politique des RFI est à mes côtés. Bonjour Pierre.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre. On vous a demandé de venir ce matin car on a reçu une question sur une déclaration récente de l'ex-président français Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire Les Républicains, candidat à l'élection présidentielle. Bonjour Lamine.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la grande radio RFI.
Merci Lamine, quel engouement pour débuter cette semaine. Vous êtes à Banjul, en Gambie, on vous écoute.
Eh bien, j'ai appris sur la grande radio que l'ex-président Nicolas Sarkozy a dit qu'il préfère l'assimilation plutôt qu'à l'intégration. À cet effet, je voudrais savoir quelle est la différence entre l'assimilation et l'intégration.
Nous ne nous contenterons plus d'une intégration qui ne marche plus, nous exigerons l'assimilation. Voilà les propos de Nicolas Sarkozy tenus la semaine dernière lors d'un meeting. Pierre Firsion, assimilation, intégration, on voit bien que le débat agite la droite en pleine campagne de la primaire. D'ailleurs ce matin chez nos confrères d'Europe 1, Nicolas Sarkozy a réaffirmé son objectif d'assimilation de l'immigration. Quelle est donc la différence?
Alors tout simplement, l'assimilation c'est le fait de couper tout lien avec son pays, avec sa culture d'origine. L'immigré doit donc adhérer totalement aux principes édictés par la société d'accueil, alors qu'avec l'intégration, l'immigré doit également souscrire aux valeurs du pays qu'il accueille, mais dans ce cas-là, il n'est pas contraint de tirer un trait sur sa culture d'origine. L'objectif est là de créer une société diverse qui respecte les différences de chacun.
Et le modèle qui est suivi en France, c'est celui de l'intégration.
Oui, ce serait donc une petite révolution si le pays en revenait à l'assimilation, qui a longtemps prévalu en France par le passé. L'hypothèse est à ne pas exclure, car comme le disait Lamine, Nicolas Sarkozy défend aujourd'hui ce modèle-là, il l'a encore fait ce matin, alors qu'il y était opposé il y a quelques années encore. Aujourd'hui, l'ancien président n'a pas de mots assez durs pour dénoncer le multiculturalisme. Dans son programme, il propose à tous ceux qui souhaitent s'intégrer à la société française un nouveau pacte d'assimilation. Dans le détail, le nouvel arrivant devrait apprendre la langue française et se conformer au mode de vie national. Et des propositions qui sont partagées désormais par toute une partie de la droite, car comme Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire ou encore Jean-François Copé défendent ce modèle d'assimilation.
Oui, François Fillon, si ma mémoire est bonne, l'ancien Premier ministre a été le premier d'ailleurs à lancer cette idée. En tout cas, on voit bien, Pierre Firsion, le glissement d'une partie des élus, les Républicains, vers finalement des idées de l'extrême droite.
Oui, parce que ce concept d'assimilation qui avait été laissé de côté par l'ensemble de la classe politique pendant ces dernières années, ce concept-là était défendu uniquement par l'extrême droite, uniquement par le Front National. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, si on regarde le programme du Front National, c'est un des points clés de son programme. Clairement donc, on peut le dire, une partie non négligeable de la droite reprend une vieille idée du FN. Et sur ce point, il y a donc une vraie différence entre, par exemple, Nicolas Sarkozy et de l'autre côté, Alain Juppé. Oui. Vraie différence de point de vue. Le maire de Bordeaux ne veut surtout pas entendre parler d'assimilation. Ça voudrait dire qu'on est tous pareils, qu'on coupe nos racines, expliquait-il la semaine dernière. Mais quand on coupe les racines d'un arbre, il meurt, faisait remarquer Alain Juppé, qui défend lui bec et ongle l'intégration, notion qui, selon ses mots, respecte les différences.
Dernier propos donc de Nicolas Sarkozy ce matin. La réalité est là, l'intégration républicaine n'a pas fonctionné, ne fonctionne pas, il faut donc passer à l'assimilation. On ne peut pas garder 29% d'une communauté qui se trouve tentée par la charia, ou alors, a dit l'ancien président de la République, on est irresponsable. Fin de citation à suivre donc. Merci beaucoup Pierre Firsion d'être venu répondre à Lamine. Lamine, on a répondu à vos questions ? On a perdu Lamine. On me dit que non. Voilà, la ligne vient de couper. À bientôt, Pierre. Merci à vous. 10h16 ici à Paris. 33 9 693 693 70. D'autres questions. On va s'intéresser aux Rafales. Vous savez qu'après des années de négociations, le contrat a enfin été signé entre la France et l'Inde. C'était vendredi dernier. La France va livrer 36 avions de combat pour un montant proche, dit-on, de 8 milliards d'euros. Bonjour, Chérif.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Bienvenue sur notre antenne, vous nous appelez de Dakar.
Oui.
On vous écoute.
Alors maintenant, c'est par rapport au sujet de la vente des Rafales. La France et l'Inde s'engagent dans un contrat d'achat parmi des lits de 36 chasseurs Rafales à l'avionneur français Dassault. Maintenant, j'ai deux questions à ce sujet. La première question, c'est comment cet accord va-t-il profiter à la France? Et la deuxième question, est-ce que ça signifie qu'au terme du contrat, l'Inde pourra construire ses propres avions de combat?
Oui, d'autant que l'accord comprend effectivement un volet sur les transferts de technologie. Bonjour Sébastien Farcy.
Bonjour Juan, bonjour Chérie, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, vous êtes le correspondant d'RFI en Inde. Alors il y a évidemment des contreparties industrielles, mais aussi donc des transferts de technologie prévus dans cet accord signé vendredi dernier. Ce sont des clauses, disons-le Sébastien Farcy, qui sont devenues aujourd'hui incontournables. Ça fait partie de la règle du jeu que de transférer de la technologie lorsqu'on signe un contrat, surtout en Inde.
Oui, tout à fait. Alors, pour d'abord répondre à la premier volet de la question de Chéri sur en quoi cela va bénéficier à la France, bien c'est évident. 36 avions qui sont faits 100% en France, cela donne énormément de travail, bien sûr, à Dassault Aviation, à Safran, à Thales, qui sont les principaux fabricants et équipementiers du Rafale. On parle, en tout cas, Dassault parle de 7000 emplois directs et indirects qui sont nécessaires pour la fabrication de cet avion de chasse. Aujourd'hui, et jusqu'à très récemment, l'armée des Françaises était la seule qui achetait ces Rafales. Maintenant, le Qatar, l'Égypte et l'Inde donc, vont les acheter. Donc, on parle vraiment d'emplois directs et indirects. On parle aussi, bien sûr, d'une position stratégique de la France qui vient fournir maintenant ces avions de chasse pour... On parle un avion de chasse et aujourd'hui utilisé pendant 20 à 40 ans. Donc, on parle vraiment d'une collaboration stratégique entre les deux armées, l'armée française et l'armée indienne. Donc c'est aussi à ce niveau-là, et c'est ce que disait le ministre de la Défense, c'est ce que nous disait à RFI, le ministre de la Défense, c'est vraiment un engagement entre les deux pays pour les 50 ans qui viennent.
Ouais. On sait, Sébastien Farcy, que l'ambition de l'Inde, à terme, c'est de produire local et de produire, évidemment, ses propres avions de combat. Chérif nous pose une question tout à fait légitime. Est-ce que ça signifie que l'Inde pourra un jour construire ses propres Rafales ou en tout cas ses propres avions de combat?
Alors, justement, il y a deux choses. D'abord, oui, en effet, dans l'accord de 8 milliards environ qui a été signé vendredi, il y a une clause qu'on appelle de transfert compensatoire. C'est une clause qui, en fait, permet, qui oblige Dassault et les équipementiers à investir 50% de la valeur du contrat dans l'industrie locale indienne, c'est-à-dire environ 4 milliards de dollars d'euros seront investis. Pourquoi ? Ben justement, pour aider cette industrie indienne de l'armement à se développer, une industrie qui est encore balbutiante, embryonnaire en Inde, alors que l'Inde est l'un des plus grands, un des grands acheteurs, le plus grand acheteur importateur en tout cas d'armes au monde, qui a besoin énormément d'armée, une armée très importante pour se défendre contre le danger ou en tout cas la crainte qu'il a envers le Pakistan par exemple ou la Chine. Donc l'Inde en a besoin, mais est un très petit producteur. Mais l'Inde a commencé depuis en fait 30 ans à développer son propre chasseur qui vient d'être intégré à l'armée de l'air indienne. Mais c'est un chasseur qui est très léger. Il s'appelle le Tejas. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un chasseur comme le Rafale qui est considéré comme un chasseur multirôle, qui peut aller beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus indépendant, qui peut aussi transporter l'arme nucléaire. Donc on parle de deux équipements différents, mais l'Inde commence progressivement à développer ses propres chasseurs et à travers cette clause de transfert de technologie qu'a signé Dassault, et bien justement le but est de pouvoir progressivement et Dassault s'est dit plus ou moins prêt à le faire. On verra dans les détails comment cela se fait dans les 20 ans à venir, parce que c'est très difficile à mettre en place, cette collaboration industrielle. Mais le but est, oui, en effet, d'aider l'Inde à devenir de plus en plus indépendante, et c'est ce que veut faire New Delhi, justement.
Oui, en tout cas, le fait de devoir réinvestir près de la moitié de la somme, donc 4 milliards d'euros dans l'industrie indienne, Dassault sera évidemment obligé de s'installer davantage sur le territoire indien. Merci d'avoir été avec nous, Sébastien Farcy, correspondant d'RFI en Inde. On salue évidemment Chérif qui nous appelait de Dakar, où vous nous écoutez sur les 92 FM, Dakar, où il 8h21. Bon réveil à tous si vous êtes sur place, ou bon courage si vous êtes sur la route direction le travail. On va s'intéresser à la situation au Burundi avec Esdras Ndikumana. Bonjour Esdras.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste au service Afrique d'RFI. On a des questions sur la situation au Burundi après la publication d'un rapport de la mission d'enquête des Nations Unies. Eugène, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Bujumbura.
Effectivement, et j'ai une question par rapport au rapport qui a été sorti par les trois experts indépendants des Nations Unies. Et comme vous le savez, ils ont indexé certaines autorités du Burundi d'être responsables des crimes contre l'humanité. Ma première question, je veux savoir comment sont-ils arrivés à leur conclusion.
Ah, effectivement, il y a eu des semaines et des semaines d'enquête, Esdras Ndikumana, un rapport qui dit craindre des violences de masse, qui parle de graves violations des droits de l'homme, qui constituerait, je cite, de possibles crimes contre l'humanité. En substance, que dit ce rapport déjà ?
Bon, alors, ce rapport, qu'est-ce qu'il dit ? Ce rapport dit qu'il a constaté qu'il y a eu des violations graves qui sont systématiques et constantes des droits de l'homme au Burundi. Il parle d'impunité, d'une impunité omniprésente. Et donc, ces experts, comme vous dites, ils sont venus au Burundi, où ils ont passé, ils sont venus à deux reprises. En fait, si on fait un peu d'historique, cette commission, la décision de mettre en place cette commission, ça a été décidé au mois de décembre, après de graves violences au Burundi. Il y avait eu l'attaque de trois camps militaires. Cela avait été suivi par une répression féroce. Le pouvoir avait été accusé d'avoir tué, d'avoir exécuté au moins une centaine de jeunes des quartiers contestataires, ce que le gouvernement a toujours nié, bien sûr. Mmh. Et donc, le Conseil des droits de l'homme a décidé de mettre en place cette commission de trois experts. Ceux-ci sont venus au Burundi à deux reprises. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont mis en place une commission de cinq enquêteurs spécialisés qui sont venus au Burundi, qui ont passé deux mois au Burundi. Ils sont allés dans tous les pays voisins où il y a à peu près 300 000 réfugiés burundais, c'est-à-dire le Rwanda, la Tanzanie, la RDC, l'Ouganda. Ils ont rencontré 227 témoins officiels. Donc, ils ont fait des interviews. Il faut aussi se rappeler qu'ils se basent également sur le travail d'une mission des droits de l'homme qui est basée au Burundi et qui fait ce travail au quotidien.
Ouais. Et ces experts ont constaté que d'un point de vue des droits de l'homme, la situation est catastrophique au Burundi.
Ah, ça, absolument. Ils ont constaté que la situation est catastrophique. On parle de, donc, au bas mot, c'est 460 cas d'exécution extrajudiciaire. Il y a des milliers de cas de torture. Il y a des milliers de personnes qui sont en prison. Aujourd'hui, on arrête les gens dans les rues sans mandat. Il n'y a pas de suite, en fait. Et comme ils le disent, l'état de droit n'existe plus dans la rue, même si le gouvernement l'a nié.
Ouais, pour revenir en quelques mots sur le travail des experts sur le terrain durant ces mois, le travail a été compliqué. D'ailleurs, dans le rapport, ils écrivent qu'ils ont dû s'abstenir de mener des enquêtes dans certains sites pour protéger les témoins et les victimes. Quelle suite vont être données à cette enquête ? Alors, c'est la question que nous demandait également Eugène.
Alors, quelle est la suite ? Eh bien, ça sera un peu difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement a rejeté catégoriquement ce rapport. Il a d'ailleurs organisé à travers tout le pays durant ce week-end des manifestations à Bujumbura. Certains témoins ont parlé d'un millier de manifestants, mais le pouvoir revendique plus de 10 000 manifestants. Mais en tout cas, d'après certaines sources, ils étaient très nombreux. Donc, ils s'en sont pris à ce rapport des Nations Unies. Ils ont manifesté jusque devant le siège des Nations Unies des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'ils préconisent ? Donc, le groupe d'experts préconise notamment, de radier le Burundi du Conseil des droits de l'homme. Ils préconisent.
Ce qui serait d'ailleurs une première depuis la création du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
Absolument, ce serait une première. Qu'est-ce qu'ils préconisent encore ? Ils ont établi une liste de 12 personnalités qui seraient responsables de ces graves violations des droits de l'homme, de ces crimes contre l'humanité. Alors, d'après les informations que nous avons eues ici à RFI, il y aurait 10 personnalités qui sont du pouvoir et 2 de l'opposition. Parmi les personnalités du pouvoir, ce sont vraiment de grandes personnalités qui appartiennent au premier cercle du pouvoir. Il y a le ministre de la Sécurité publique, le général Alain Guillaume Bouyoni, qui est considéré comme le numéro 2 burundais. Il y a le chef d'état-major, il y a le chef du service secret, le SNR, le service de renseignement du Burundi, qui est un peu le maître d'œuvre de toute la répression. Il y a le chef de cabinet police du président, donc des généraux issus de l'ex-rébellion au pouvoir aujourd'hui au Burundi.
On verra en tout cas si les recommandations de ces experts seront entendues par la communauté internationale. Merci beaucoup Esdras Dikoumana d'être venu répondre à Eugène qui nous appelait de Bujumbura. Il nous reste encore 4 minutes, on va terminer cette première partie avec un sujet bien plus léger. On va parler football, du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est cette récompense qui désigne le meilleur joueur de football de la planète. Alejandro Valente, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes le chef du service des sports d'RFI. Vous avez suivi évidemment, comme tous les passionnés de football, la révolution qui s'annonce pour la désignation du meilleur joueur de football de l'année. Moussa nous appelle de Bamako. Bonjour Moussa.
Bonjour Juan Gomez.
Nous vous écoutons.
Auditeur de la RFI. J'ai appris que le magazine France Football et la FIFA ont mis fin à leur collaboration à l'attribution du Ballon d'Or. Pourquoi ont-ils mis fin à leur collaboration? Et quel changement cela entraînera-t-il à l'attribution du Ballon d'Or?
Ah, des changements, il va y en avoir, Alejandro Valente. En tout cas, ce qui est sûr déjà, c'est que le divorce entre France Football et la FIFA est consommé. C'est un retour aux sources, finalement, pour le Ballon d'Or.
Oui, en fait, c'est même pas un divorce. Disons qu'il y avait eu un accord pour fusionner les deux récompenses, le Ballon d'Or de France Football et les FIFA World Player de la FIFA en 2010. C'était un accord qui avait été signé pour 5 ans. Et donc, à la fin de cet accord, les deux parties ont décidé de ne pas le prolonger. Pourquoi? C'est difficile à savoir. Il y a probablement du côté de la FIFA et de Gianni Infantino, son président, une volonté de se démarquer de Sepp Blatter qui avait signé cet accord, donc de vouloir éventuellement rompre avec un pan d'héritage de Blatter. Il y a surtout le fait que les deux parties, visiblement, n'y trouvaient pas leur compte. France Football estimait être dans l'ombre de la FIFA et la FIFA estimait faire toutes les dépenses pour les galas, etc. et finalement devoir composer toujours avec France Football. Donc on va revenir à la formule ancienne, c'est tout ça, tout simple.
Et c'est celle qui est préférée en tout cas par les nostalgiques du Ballon d'Or, Alejandro Valente, puisque ne voteront à l'avenir, et d'ailleurs dès cette année, que les journalistes.
Voilà, c'est comme ça a toujours été au Ballon d'Or. C'est vrai que les votes des sélectionneurs et des capitaines des sélections donnaient lieu à beaucoup de controverses. Beaucoup des capitaines s'étaient plaints de ne pas avoir voté et d'avoir vu leur vote quand même validé.
Puis on accusait les capitaines de copinage au moment
du vote.
Voilà,
il y avait des accusations de copinage. Et puis surtout, il y avait une forme de conservatisme qui s'imposait et qui faisait qu'il y avait toujours les mêmes lauréats, ou Ronaldo ou Messi, alors que Ribéry ou d'autres avaient fait des grandes saisons. Donc on pense qu'avec des journalistes, ça peut éventuellement changer. On verra en tout cas dès cette année, même si pour les experts, ça paraît difficile de voir échapper le Ballon d'Or à Cristiano Ronaldo. Voilà. Mais bon, en tout cas, on verra comment ça se passe et on saura le nom du lauréat dès les mois de décembre, comme ça a toujours été pour France Football, et non pas en janvier, comme c'était le cas depuis l'accord avec la FIFA,
donc quelques
semaines plus tôt.
Une révolution dans le monde du football.
Une petite révolution,
Révolution. Merci beaucoup Alejandro Valente. Moussa, bonne journée à Bamako. D'autres questions à la rédaction des RFI, évidemment, demain matin. D'ici là, vous continuez à nous appeler. Le standard reste ouvert. 33 9 693 693 70. Nous répondons évidemment tous les matins à vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Le standard reste ouvert, évidemment, pour recueillir cette fois-ci vos réactions. Nous vous donnerons la parole dans 10 minutes pour parler de la réélection au Gabon d'Ali Bongo. Réélection toujours contesté par l'opposant Jean Ping, qui refuse d'ailleurs la main tendue du président sortant. Ali Bongo, vous l'avez entendu sur notre antenne, propose un dialogue national et il propose même d'inclure l'opposition dans le nouveau gouvernement. A tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.